La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Oh, salut, salut. Bienvenue dans cette midinale du 8 novembre 2021 sur Radio Piquet. Désolé pour la petite prise d'antenne un peu dure, on est en train de former des nouveaux techniciens radio.
Désolé pour moi.
Donc il va peut-être y avoir des petits ratés Pedro et en stress total, mais ça va bien se passer.
Ça va.
Il va nous imposer un peu de montage au podcast, mais bon, ça c'est Nico qui s'y collera, quoi, non ? Salut Nico !
Salut ! Et donc vous avez deviné, autour des micros, il y a Seb,
salut.
Nico et Pedro en apprenticien technique, donc soyez indulgents s'il vous plaît.
Mais ça va aller.
Ouais. Et on commence direct par la revue de presse ?
Ouais, on y va. Voilà.
Donc aujourd'hui, tu veux que je dise qu'on parle à la revue de presse ou tu fais le topo ?
Ouais, bah je commence. On va parler en premier par de la France-Afrique, voilà, dans la continuité de la semaine dernière. C'est moi qui commence. C'est un article sur les exultations, une tradition france-africaine. La semaine dernière, j'avais évoqué au début du génocide des Tutsis au Rwanda, comment le gouvernement français, et surtout par une décision de Mitterrand tout seul, comment il avait fait, comment il avait exfiltré, il avait sauvé la famille Habyarimana, c'est-à-dire la famille du dictateur Juvénal Habyarimana qui avait été assassiné le 6 avril. Hop, il avait fait partir sa femme, ses enfants et puis on va dire les dignitaires du régime tout de suite après, trois jours après. Et ben on va se rendre compte que c'est une tradition française de sauver les dictateurs et les familles des dictateurs. Et je vais vous lire et commenter un article qui est paru le 31 octobre dernier sur le site d'Afrique 21. Très bon article qui va parler du coup de Blaise Compaoré et Thomas Sankara dans un premier temps. Et on va revenir du coup sur Agathe Habyarimana après. Du coup, pourquoi ? Parce que je rappelle que Thomas Sankara, du coup, qui était président du Burkina Faso entre 82 et 87, s'est fait assassiner le 15 octobre 87. Du coup, il y a un procès qui a commencé le 11 octobre dernier. Le procès de ces assassins qui a commencé au Burkina Faso. A priori, quoi, c'est sûr, le commanditaire de cet assassinat, c'était son bras droit, son ami Blaise Compaoré, qui n'est pas présent au procès, puisqu'il est exfiltré depuis des années, il est protégé en Côte d'Ivoire, il a la nationalité ivoirienne, et derrière, eh bien, les services français ont tout fait pour l'aider. Donc c'est parti, je vous lis l'article. Donc, c'est un article qui est paru le 31 octobre dernier, de Rémi Carayol et Michael Poron. Voilà, il s'intitule « Les exfiltrations d'une tradition france-africaine ». Du coup, Blaise Compaoré est le grand absent du procès des assassins de Thomas Sankara et de 12 de ses camarades, qui a repris le 25 octobre. Le procès a commencé le 11 octobre, il y a eu une interruption, il a repris le 25 octobre. Donc si Blaise Compaoré échappe à la justice de son pays, c'est à la France qu'il le doit. Il y a tout juste 7 ans, l'armée française l'a aidé à fuir la colère du peuple. Il y a eu une grosse exaspération il y a 7 ans au Burkina Faso, un gros mouvement qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Celui-ci s'est enfui. Cette exfiltration n'était pas la première du genre. Depuis plusieurs décennies, le pouvoir français a régulièrement volé au secours de ses « amis » entre guillemets sur le continent. Alors les « amis », c'est souvent les présidents et leur entourage, souvent, on va dire, des espèces de dictateurs qui ont installé la France depuis les indépendances. Alors voilà, c'est le grand absent du procès des assassins de Thomas Sankara, qui a repris le 25 octobre dernier à Ouagadougou. Comme lors de l'ouverture le 11 octobre de ce procès historique qui doit situer les responsabilités dans la tuerie du 15 octobre 87 qui a mis fin à la révolution sankariste. Seuls 12 des 14 prévenus était assis sur le banc des accusés. Blaise Compaoré, le principal suspect, accusé d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et de recel de cadavres, et dont les proches de Sankara, ainsi qu'une bonne partie de la population du pays, sont persuadés de sa culpabilité, n'étaient pas là, aux grandes dames des familles des victimes. Donc ce procès, il est important. Hein. C'est un procès historique, comme il dit dans l'article. Le principal responsable n'est pas là, protégé, sauvegardé par la France. Quelques jours avant le début des audiences, les avocats de celui qui a régné sur le Burkina durant 27 ans, c'est-à-dire, là on parle de Blaise Compaoré, hein, qui est arrivé après l'assassinat de Thomas Sankara, donc ces avocats ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas à ce procès, qu'ils qualifient de politique. Depuis, des proches de Compaoré ont fait savoir à quelques journalistes qu'il est malade, mais qu'il se porte bien physiquement. Mais sa tête, lui, ne fonctionne plus comme avant. Donc, il serait incapable de répondre aux questions des juges. Ça tombe bien. Ainsi, pour la deuxième fois depuis qu'il a quitté le pouvoir en octobre 2014, contraint et forcé par une insurrection populaire, Compaoré échappera à la justice de son pays. Déjà en mai 2017, il était le principal absent du procès de la répression de l'insurrection. Il y a eu une répression féroce hein, en 2014 du mouvement populaire, au cours de laquelle plusieurs manifestants avaient été tués par l'armée. Bon, l'article va revenir plus tard. À ce moment-là, déjà, l'armée française a bien aidé Compaoré à réprimer le mouvement. Alors, ce privilège, donc échappé à la justice, il le doit avant tout à la France. Le 31 octobre 2014, quand il se décide enfin à rendre le pouvoir après avoir tergiversé pendant des heures, Compaoré prend la fuite, direction le Ghana. Avec lui, son épouse, Chantal Compaoré, et plusieurs proches. Le convoi de 28 véhicules se dirige vers Pau, son fief militaire à quelques kilomètres de la frontière avec le Ghana. Mais en route, le président déchu apprend que des manifestants l'y attendent de pied ferme. Alors des manifestants, on va voir, pacifiques. Ils veulent juste que la justice soit rendue. Le convoi de Compaoré bifurque, quitte le goudron, s'arrête dans les environs de Manga, un petit village dans une forêt. C'est alors que la France entre en jeu. Compaoré, coincé, fait appel à l'armée française. Celle-ci dispose depuis octobre 2010 d'une base près de Ouagadougou, où se trouvent quelques dizaines de membres des forces spéciales prêts à intervenir à tout moment dans le Sahel. C'est la force Sabre. Un hélicoptère des forces spéciales est envoyé sur les lieux. Donc ça va très vite, hein. Nos amis, là en l'occurrence Compaoré, passent un coup de téléphone à l'Elysée. Hop, l'armée française arrive. Un hélicoptère des forces spéciales est envoyé sur les lieux. L'appareil exfiltre Compaoré et trois de ses proches. Héliporté en Ghana, où les attend un avion français venu de la Côte d'Ivoire. Le groupe embarque et décolle en direction de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà comment il a été exfiltré par la France. Quelques jours après cette exfiltration, au cours d'une conférence de presse accordée à une poignée de journalistes, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, affirme avoir pris la bonne décision en volant au secours de Compaoré. Hein ? L'ambassadeur de France dit on a pris la bonne décision d'avoir exfiltré Blaise Compaoré, donc qui venait de réprimer de façon sanglante une insurrection populaire, que la population ne voulait plus. Eh bien, l'ambassadeur français, le représentant de l'État français, dit nous avons pris la bonne décision. Qu'il échappe à la justice, etc. Il s'agissait, selon lui, d'éviter de revivre ce qui s'est passé en 87 avec l'assassinat de Sankara. Curieuse référence, parce que le contexte n'a rien à voir, et ensuite, surtout, parce que le risque n'était pas tant que Compaoré et ses proches se fassent lyncher, mais bien que leur Cerbère, leur service d'ordre, tire dans le tas et se rende coupable d'une tuerie, ce qui s'était passé quelques jours avant. Voilà, c'est l'argument avancé par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense alors, qu'il s'agissait d'éviter un bain de sang. Et les Français ont fait le job correctement dans des conditions difficiles. Ça, c'est des citations de Jean-Yves Le Drian. On vient sauver des dictateurs et on dit qu'on a fait le job. Durant sa conférence de presse, l'ambassadeur de France se donne le beau rôle. Selon lui, cette exfiltration était un signal envoyé à tous les despotes du continent. La France aidera tous ceux qui quitteront le pouvoir. Mais à Ouagadougou, donc capitale du Burkina Faso, en fait, on en fait une interprétation bien différente. Pourquoi la France a-t-elle aidé Blaise à fuir? Pourquoi nous avons ôté la possibilité de l'arrêter et de le juger pour ses crimes? Voilà ce que dit un des acteurs de la société civile à l'époque. Sans l'intervention de la France, Compaoré serait à la barre des accusés aujourd'hui. Soupire Fidèle Katanga, un ancien collaborateur de Sankara, qui en veut à la France de lui avoir permis de fuir ses responsabilités. C'est ça la décision qui a été prise, de permettre à Blaise Compaoré d'éviter avoir répondre de ses crimes. Voilà. Alors pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que Compaoré, comme beaucoup de dictateurs en place, est un allié fidèle de la France, des affaires de la France-Afrique plutôt. C'est un ami. C'est une vieille tradition. Voilà. Alors, je pourrais multiplier les exemples. On l'a fait avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la même chose. On l'a fait avec Ouattara, qui est devenu après président du Côte d'Ivoire. On aide les pions qu'on veut garder bien en place à la tête des pays. C'est souvent des gens qui sont formés en France, qui ont été formés, qui servent bien les intérêts de la France. Donc je vais pas multiplier les exemples, mais c'est une tradition bien française de sauver les dictateurs. Je vais juste revenir sur un exemple assez hallucinant, qui est, on va dire, le sauvetage d'Agathe Habyarimana, donc la veuve de Juvénal Habyarimana, qui était le président dictateur du Rwanda de 73 à 94, jusqu'au 6 avril 1994, où il a été tué dans un attentat dans son avion qui revenait à Kigali, la capitale du Rwanda. Et sa mort était le signal du déclenchement du génocide. Le soir du 6 avril, le génocide commence. Le génocide était préparé, était réfléchi, tout était en place. La mort d'Habyarimana, c'est, on va dire, le signal qu'on peut vraiment s'y mettre au travail. Le travail, c'est comme ça que parlaient les milices et les organisateurs du génocide. Ils parlaient du génocide comme étant un travail. À ce moment-là, du coup, l'État français met en place une opération qu'elle qualifiera d'humanitaire. C'est l'opération Turquoise. C'est l'opération Amaryllis, dans un premier temps. La motivation de cette opération, c'était de sauver les ressortissants français. Viendra Turquoise, l'opération qui suivra juste après. En fait, c'est une opération militaire. Des militaires français sont envoyés à ce moment-là qui vont aider l'armée rwandaise du régime qui est en train de s'écrouler. Ils vont aider l'armée française. Ils vont aider les dignitaires du régime génocidaire qui est en place. Bien sûr, on va sauver seulement les ressortissants français. La population rwandaise, qui travaillait dans les ambassades, qui travaillait pour l'État français, qui faisait de la coopération, n'a pas été sauvée. On les a laissés crever. Ils ont été en grande partie massacrés. Par contre, et ça c'est une décision personnelle de Mitterrand, on décide de sauver la veuve du dictateur, Agathe Habyarimana, qui faisait partie vraiment du groupe des durs de durs, qui appelait au massacre, qui appelait au génocide des Tutsis. C'était une fanatique, elle, on la sauve. Et ses proches, et les dignitaires principaux du régime. Donc ça, on est en 94. Agathe Habyarimana, donc la veuve du président Juvénal Habyarimana, a été exfiltrée vers la France avec une rapidité rare, en dépit du rôle majeur qu'elle a joué dans la préparation de ce crime de masse. Voilà, ça je vous lis l'article. La dérive extrémiste génocidaire du régime d'Habyarimana, la France était au courant depuis longtemps, par des notes des services secrets, mais aussi par les travaux des journalistes, de chercheurs. Bref, c'était une volonté de soutenir jusqu'au bout un régime qu'on savait qu'il était en train de préparer un génocide. Tous les signaux étaient là. Le rapport dit Duclerc, donc le rapport de la commission Duclerc, qui est sorti au fin mars dernier, qui avait pour rôle, commandé par Macron, de faire la lumière sur le rôle de l'État français dans le génocide des Tutsis. Donc ce rapport dit Duclerc, relatif au Rwanda, remis au président Macron, voilà, raconte dans le détail cette exfiltration. Il en ressort qu'Agathe Abiarimana est passée en priorité, avant même les ressortissants français, et que c'est sur l'instruction personnelle de François Mitterrand, le président français de l'époque, qu'elle a été accueillie en France. Petite précision, à ce moment-là, c'est pas dit dans l'article, mais vous pouvez le retrouver dans nombre d'ouvrages sur l'affaire du génocide, François Mitterrand, sur une décision personnelle, débloque 200 000 francs à l'époque, donc à peu près, on va dire, 30 000 euros.
Si tu fais la conversion maintenant, ouais, ça...
30 000 euros. Il débloque de sa décision personnelle 200 000 francs pour les frais de bouche, les frais pour Agathe Abiarimana. Il les débloque du ministère de la Coopération. Personne n'a son mot à dire. Voilà, c'est ainsi. Je continue à lire l'article. L'évacuation des personnes rwandaises menacées n'est d'emblée pas une priorité pour les autorités françaises. Ça, c'est dans le rapport du Clerc. Une seule exception est notable, la protection et l'évacuation de la veuve de Juvénal Abiarimana et de sa famille. C'est une demande personnelle de François Mitterrand. On le retrouve dans les archives. Selon le rapport du Clerc, la famille du président sollicite l'ambassadeur français dès le 7 avril au matin afin d'être évacué d'urgence. Et c'est fait. Une note anonyme, je continue à lire le rapport. Une note anonyme et manuscrite d'un responsable militaire précise les conditions de ce transport aérien, afin que la parentèle d'Agathe Abiarimana ne parte pas seule et que soit constitué un noyau blanc tout autour, soulignent les historiens, qui ajoutent « Ce souhait que la famille Abiarimana soit mélangée à des passagers français vise-t-il à rendre cette évacuation plus discrète et acceptable ?» Peut-être s'agit-il aussi dans l'esprit de ce responsable militaire d'assurer la sécurité de ses passagers particuliers en les entourant de ressortissants français que le FPR, c'est-à-dire le Front Patriotique Rwandais, les anciens réfugiés qui ont fait la guerre contre les Abiarimana et qui ont mis fin au génocide, hein, c'est eux qui ont mis fin au génocide. Donc, dans la logique du responsable militaire, c'était de dire peut-être que du coup le FPR hésitera beaucoup à attaquer. Il n'a jamais de façon attaqué gratuitement des civils, le FPR. C'est arrivé plus tard. Il y a des exactions, il y a eu des crimes de guerre commis par le FPR. À ce moment-là, il n'y en a pas. Bref. Donc voilà, le 9 avril, décolle l'avion qui emmène la famille Abiarimana. Ils passent par Bangui en Centrafrique et ils arrivent en France. Et depuis, elle est toujours en France, libre de ses mouvements. Pas inquiétée par la justice.
Tout va bien.
Ouais. Tout va bien pour elle.
Finalement, c'est un peu comme tous les dictateurs africains qu'on héberge en France.
Exactement. Bon. Là, c'est juste, l'exemple est tellement hallucinant. Alors, peut-être qu'avec ce rapport du Clerc, des choses vont bouger. Parce que ce rapport du Clerc, il vient quand même légitimer tous les travaux faits par les chercheurs, des militants, des journalistes qui, depuis 1994... ont sorti les preuves sur l'implication de l'État français. Là, officiellement, par ce rapport de la commission du Clerc, il y a pour la première fois un discours officiel qui vient reconnaître les responsabilités graves et accablantes, c'est les termes qui sont employés dans le rapport, de l'État français. On va voir si ça fait bouger les choses. Moi, j'ai un doute parce que, d'entrée de jeu, il y a une espèce de diplomatie qui se met en route entre Macron et le régime Kagame, c'est-à-dire le président actuel du Rwanda, qui est un régime qu'il faut critiquer, hein, je veux dire néolibéral. Bon, voilà, c'est pas les gentils victimes de l'histoire, hein, non. Bon, ils sont en train de faire une opération, j'ai l'impression, ok, le rapport du Clerc et un autre rapport qui est sorti, j'en avais parlé, un rapport Muse, commandé par le régime rwandais. Ok, bon, bah voilà, vous voyez, ça y est, on a reconnu l'implication de l'État français, on peut passer à autre chose, on peut continuer à faire des affaires, en gros. Moi, j'ai l'impression que qu'on se dirige vers ça, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, en fait, je vais finir là-dessus. Le combat continue, en fait. Le combat pour la justice, contre l'impunité de beaucoup de dignitaires de l'ancien régime d'Abiarimana, régime génocidaire, qui a commis un génocide. Bah, il y a un combat à faire pour que justice soit rendue, pour rendre un petit peu visible aussi le drame d'un nombre incroyable de victimes, et juste se dire mais que c'est pas possible en fait de protéger des gens dont on sait, dont on a les preuves, qui ont commis un génocide, qui l'ont préparé, qui l'ont pensé, et en fait on ne fait rien, on les sauve, on les protège.
Voilà. C'est le jeu entre les grands puissants, quoi.
C'est ça.
Ils se protègent entre eux.
Ouais. Ouais. Bien sûr.
Ben, en tout cas, merci Nico pour tous ces éclaircissements. C'est toujours. Moi, j'en apprends plein à chaque fois avec toi. Donc, on y reviendra
sur la France-Afrique. C'est un sujet, je pense, qui va revenir, puisque, personnellement, je suis très intéressé à cette question.
Ben, merci à toi. Et on va enchaîner sur quelque chose d'un peu plus, allez, on va dire léger. C'est les derniers dénouements de l'affaire Benalla.
Les derniers, on n'est même pas encore sûr. Il y a les condamnations qui sont tombées cette semaine. C'était quand le 5 novembre, je crois. Donc, des condamnations un peu plus lourdes que ce qui avait été demandé par le parquet au départ.
Ce qui est rare.
Et apparemment, le juge, il se laisse pas berner, quoi. Donc, en gros, Benalla, ce coup-ci, alors qu'il avait... Qu'est-ce qu'avait demandé déjà le parquet ? C'était 18 mois avec sursis, il me semble.
Je crois, c'est ça, ouais.
Ouais. Et là, il a pris un peu plus cher, apparemment, puisqu'il prend, et je cherche exactement où on en est, je crois que c'est 3 ans avec sursis, dont un ferme.
Non, il a pris 3 ans, 24 mois avec sursis, un an ferme, et comme c'est un an ferme, ce sera avec bracelet électronique. Parce que pour eux, il y a des bracelets électroniques.
C'est ça. Donc le tribunal est allé au-delà des réquisitions. 18 mois de prison avec sursis avaient été requis, dont la peine d'emprisonnement ferme. Il est pourri, en fait, cet article du Monde. Excusez-moi, je suis en train de lire un article, ils ne savent même pas faire des phrases, du coup, je suis tout perdu. Mais en gros, c'est ça, il a pris un enferme, mais qu'il pourra faire avec bracelet électronique à domicile. Mais bon, il a pris plus cher que ce qui était demandé par le parquet. Il a pris aussi 500 euros d'amende.
C'est ça.
On se demande à quoi ça sert, ça. Et il a pris 5 mois d'interdiction de travail dans la fonction publique et 10 ans d'interdiction de port d'armes. Donc, il ne pourra plus jouer avec son pistolet en plastique.
La vache.
Voilà. Donc, pareil, il n'y a pas que Benalla qui a pris plus cher. Tous ses copains, Monsieur Kras, Vincent Kras, lui, du coup, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Une interdiction de porter une arme pendant 10 ans aussi. Et aussi 500 euros d'amende. Voilà. Et les deux autres, qui étaient les deux policiers qui ont dû sortir les images, qui avaient sorti des documents pour que Benalla puisse les consulter, eux ont été condamnés à 5000 euros d'amende et l'autre à 3 mois avec sursis, mais des peines qui ne seront pas inscrites à leur casier judiciaire. Sûrement pour qu'ils puissent continuer à effectuer leur travail, quoi, évidemment.
Oui, des flics condamnés, ça paraît normal, mais en France, quoi.
Alors, par contre, quand même, Benalla et Kras ont aussi été condamnés à payer immédiatement 52 000 euros aux parties civiles, dont deux syndicats policiers. Ah, c'est pas mal, ça. Là, je l'avais pas retenu, celle-là, la première lecture. Au titre du préjudice et des frais de justice. Donc, je suis pas sûr que ce soit les deux qui se soient fait tabasser, qui vont toucher les 52 000 euros. Apparemment, c'est surtout des syndicats policiers. Donc, non seulement Benalla couvre Macron...
C'est ça.
Et en plus, il demande de payer pour la police, quoi, qui a subi un préjudice, que M. Benalla se soit pris pour un policier, finalement.
C'est un peu ça, ouais. En fait, il a mis un... Donc, alors, on lui reproche quoi, quand même ? On lui reproche d'avoir fracassé deux manifestants, ça a été filmé. On lui reproche d'avoir... il avait un uniforme de police avec un brassard, donc identifié comme policier. C'est une usurpation, hein.
C'est ça.
Je vous encourage à faire la même chose, vous verrez comment vous serez accueilli.
Ça va pas marcher.
Voilà. Et en plus, moi j'avais noté un truc assez délirant dans cet article, c'était sa défense où, en gros,
il a été réglo, loyal et honnête.
Voilà. Et puis il nous explique qu'on peut lui reprocher d'avoir surtout fait des gestes techniques mal exécutés, je crois que c'est ça qu'il utilise.
C'est ça, un truc comme ça.
C'est hallucinant. Donc,
il n'a pas du tout, il conteste toute violence volontaire. Hein, ça se voit très bien sur la vidéo. Ce ne sont que des coups portés involontairement. Ça tombe tout seul. On ne sait pas d'où ça vient. Ouais. Non, c'est quand même fort de nier des trucs qu'on voit, quoi.
C'est un truc récurrent, en fait. Des gens qui sont un peu ivres de pouvoir, on va dire ça.
Ouais. En fait, même son avocat, hein, il avait plaidé qu'il soit complètement discrédité. Ça se dit, ça ? Non, enfin qu'il soit voilà, qu'il prenne rien du tout. Non, il a rien fait, Monsieur Benalla et tout. Il reconnaissait juste l'histoire du. Alors ça, je l'ai perdu. Évidemment, je suis tout à fait prêt dans mon article. ils reconnaissent juste une chose. Je l'ai plus. Eh ben, je l'ai pas. Je le retrouverai plus tard. Voilà. Enfin, en gros, non, Monsieur Benalla n'a rien fait. Voilà. Hein, mais bon, il est quand même à la fin jugé, donc je pense que les preuves étaient assez accablantes, quoi.
Hein. Bah, c'est ça, ouais. Bon, après, il faut savoir que là, bien sûr, il a fait appel. Hein,
donc, oui, bah oui.
Il va être rejugé.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'en cours d'appel, ils prennent un peu plus, ce serait bien.
Alors, même si, encore une fois, on le dit, hein, on n'est pas pour l'emprisonnement hein, de personne, mais bon, la faute, c'est dans la reconnaissance. Ce qui serait bien un jour, c'est surtout que ça aille au-delà de Benalla, parce que c'est ça un peu quand même qui est frustrant, c'est que...
Pendant ce temps-là, le préfet, il n'est pas inquiété.
Le préfet n'est pas inquiété, Macron n'est pas inquiété. Voilà, ça, il fait le bon fusible, quoi.
Bah oui, c'est exactement ça. Moi, je peux rajouter un petit truc sur Benalla, parce que... En fait, je pense qu'il doit avoir des protections, en fait,
à
un certain niveau. Benalla, aujourd'hui, il fait du business en Afrique. C'est son terrain son terrain de conquête. Il a fondé une société privée de consultants et entrepreneurs dans la sécurité. Et en fait, parce que j'étais tombé sur un article il y a quelque temps et ça m'avait fait tilt pour prendre des nouvelles de ce type-là. Et en fait, il fait du business dans plein de pays avec derrière lui des grosses fortunes françaises hein, qui le soutiennent. Et du coup, il a des relations énormes. Par exemple, là, je tombe sur un article. En fait, il va travailler pour il a travaillé pour Idriss Déby au Tchad, par exemple, dictateur qui est mort récemment là. Donc ce type-là. Sa reconversion, c'est ça, là, hein, c'est faire du business en Afrique, quoi. Faire du business autour de la sécurité. La sécurité, ça devient un marché privé. Hein.
Ça.
Du coup, je pense qu'il a le bon réseau pour se faire protéger. Bon, voilà, c'est classique. Quoi.
On va dire que, de toute manière, de par ces interconnexions qu'il avait à l'Élysée, tout ça, ça lui a ouvert les portes. De toute façon, quand tu regardes bien, la plupart de... nos hommes politiques actuels se reconvertissent, soit ils deviennent tous consultants, soit ils deviennent tous, je sais plus comment, enfin, par exemple, tu prends Sarkozy, lui, je sais plus ce qu'il faisait, il faisait des conférences, là, X millions d'euros.
Tous les anciens présidents font des conférences ça, ils sont plein les fouilles.
En fait, c'est banal hein, ce que je vais dire là, mais la politique est devenue un business comme les autres pour ces gens-là, quoi. C'est une opportunité... pour après se faire un nom et aller blablater et aller faire payer des espèces de prestations de merde, des dizaines de milliers d'euros. Bon, c'est un gros business.
Mais à côté de ça, donc j'ai retrouvé le passage, l'avocat évoquait un raz-de-marée médiatique, un cataclysme pour un homme qui a été diabolisé. Tu comprends, on l'a diabolisé, Benalla. Et il plaidait la relaxe donc de toutes les infractions. Donc, à l'exception d'une que j'ai retrouvée, l'utilisation frauduleuse des passeports diplomatiques. Utilisation frauduleuse qui avait été reconnue. Donc, ça commençait à être dur, celle-là, de ne pas plaider coupable, mais bon.
Moi, je trouve qu'ils sont magiques.
Oui, c'est l'affaire Benalla, celle-là, elle est...
Le théâtre des guignols, en fait.
Donc, bon. Voilà, on en reparlait, ce qu'on avait dit, qu'on vous donnerait au fur et à mesure l'avancement. Donc, prochaine étape, l'appel.
Voilà, prochaine étape, l'appel.
Donc, dans 3 ans.
C'est ça. Et donc, dans 5 ans, on fait le pourvoi en cassation. Allez, voilà. On est chaud.
Allez, on passe à autre chose.
Ouais, alors, c'était de mon côté, moi, tiens. Moi, je voulais causer de Zorglub, Zemmour, la nouvelle marionnette médiatique des puissants. Et en fait, je suis tombé sur un article assez intéressant. Alors, j'avais un extrait vidéo, mais je ne sais pas trop si ça va marcher. Je vais faire un essai, hein. Je suis fou aujourd'hui.
T'es fou ? Tu tentes à la technique ?
Allez, je tente à la technique, un extrait vidéo, on va écouter voir si ça marche. Vous me direz ça tout de suite.
Nous avons regardé Face à l'info pendant un mois entier, au mois de mai dernier. L'idée d'une candidature du polémiste commençait alors à se préciser. Après calcul, voici ce qu'on constate. Éric Zemmour parle près de 11 heures au cours de ses 20 émissions. Chaque numéro du programme dure un peu plus d'une heure, mais autour de la table, il monopolise à lui tout seul la moitié du temps de parole, soit 33 minutes en moyenne par émission, avec parfois de très longues tirades. Son record en mai, 8 minutes, sans interruption. Une question nous est venue. Par rapport à ses adversaires déclarés ou supposés à la présidentielle, ça donne quoi ? Sur CNews, au mois de mai, avec ses presque 11 heures d'antenne, Éric Zemmour écrase tout. Selon le décompte du CSA, voici le reste du podium. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron parlent trois fois moins, autour de 3 heures chacun. Vient ensuite Marine Le Pen, 1h25. Les autres n'ont eu droit qu'à quelques minutes. Sur CNews, Éric Zemmour a donc parlé bien plus que tous ses concurrents réunis.
Ils disent pas si Artaud, elle a eu du temps de parole, elle.
Non, Artaud, alors ce qui est assez impressionnant sur ces... Donc, alors, c'était un extrait de complément d'enquête. Voilà, donc ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a même des gens à zéro. Hein. C'est,
mais bon, ah alors, oui, oui.
Là, c'est que les chiffres de CNews. Donc c'est quand même... Enfin, de toute manière, c'est
oui,
la
ça,
chaîne...
Oui, c'est que chez CNews, ça.
Voilà. Ouais. Pour rappeler, c'est la chaîne de Bolloré qui fait monter ses idées extrémistes avec son chroniqueur fétiche qui s'appelle Éric Zemmour, multi-condamné, pour lequel il paye des amendes, plus de 1000 pour le laisser à l'antenne. Et ce qui est un truc de fou dans cette histoire, enfin, je la suis, cette montée, parce que, pour vous dire un truc, ça fait peur même à des gens dans ma famille, tu vois, qui endorment mal.
Et c'est bien d'en avoir peur. C'est
voilà. Et en fait, on parle quand même de quelqu'un qui n'est pas déclaré
toujours
candidat.
Toujours pas, ouais.
Mais que le CSA décide de compter ses heures de...
Parce que l'a reclassé en homme politique.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est un truc de fou. On n'a jamais vu ça. Hein. C'est, le mec, il est polémiste. Non candidat, mais le CSA dit, bon, là, il y a quand même un truc. On le considère candidat, on va compter ses heures.
Et
donc,
là, non, il ne considère pas candidat. C'est qu'il considère personnage politique maintenant. Politique, donc, oui. À partir du moment où il parle de la politique, il peut... Voilà, enfin, c'est normal, ça.
Donc là, il faut se dire... Donc ce petit extrait, là, c'était juste sur mai 2021. Il a causé 10 heures
ouais.
Sur CNews. Et à côté de ça, par exemple, on va prendre, allez, je vais prendre d'autres mecs parce que je vois d'autres personnes.
Ça, c'était quand il était encore chroniqueur, mais il n'avait pas encore classé
ouais, alors,
homme politique, je
en
crois.
En mai, je crois qu'il n'était pas encore déclaré pseudo-candidat. Enfin bref, voilà. Mais bon, 10 heures.
Ouais,
pendant 10 heures, il met ses idées à la radio, enfin à la télé. Et c'est que sur CNews.
Et encore, je ne suis pas sûr que 10 heures ce soit réellement compté. C'était une émission de 19 à 20 heures tous les soirs.
Ouais, c'est ça.
Donc,
ouais.
C'est ça. Donc ouais. Tu comptes, hein, potentiellement, il y a plutôt 20 heures d'émission minimum. Et juste pour avoir être passé dessus par erreur, ils disent qu'en gros, ils parlent la moitié du temps, mais en fait, ils parlent tout le temps.
Ils parlent tout le temps,
oui. Les autres sont là, ah oui, monsieur Zemmour, ah oui.
Parce
oui.
Qu'après, bon, faut vouloir se les cogner, hein, les émissions, mais il est jamais coupé, il
n'est
jamais contredit, il expose ses idées, hein, ça je vais y venir après, j'avais
bien
un autre article là-dessus, hein, donc voilà, parce que on va approfondir un peu le sujet, parce que ça me tient à cœur, ce que je trouve fou, en fait, c'est qu'on parle quand même du CSA. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est les gens qui sont censés être les arbitres, et ces gens-là ne font rien. À côté de ça, on met sur la chaîne de CNews, parce que j'ai les chiffres devant moi, Jadot, il n'a pas causé, Montebourg, il n'a pas causé, Pécresse, qui est de droite, n'a pas causé. C'est quand même un truc de fou. Zemmour, 10 heures, quoi. Il a 10 fois plus de temps de parole que Marine Le Pen, alors qu'on pouvait s'attendre que Marine Le Pen, sur CNews, elle cartonne aussi, quoi, tu vois, puisque c'est les genres d'idées que Bolloré veut faire monter. Eh ben non. Donc, on sent bien, là, qu'il y a...
Ah ben, il y a une volonté de positionner Zemmour.
Voilà.
Ah, ils y croient, hein, ça commence à être...
En fait, moi, il y a un truc que je trouve hallucinant, c'est que, du coup, CNews appartient à Bolloré. Donc, c'est une entreprise de médias privés.
Mm-hmm. C'est ça.
C'est une chaîne d'information, et les chaînes d'information ont explosé, là, depuis, on va dire, 10 ans. Et... Beaucoup d'émissions de ces chaînes d'information sont des émissions soi-disant de débat, quoi, de débat politique.
Non, il n'y a pas de débat.
Il n'y a pas de débat, souvent, il n'y a pas de contradiction. C'est une espèce de même classe qui se retrouve et qui font. Qui vont parler de tout ce qui est dans l'air du temps et qui vont donner quand même la parole à des gens qui ont des positions quand même assez. Assez extrémiste, quoi. Il y a Zemmour, mais il y en a plein d'autres, en fait. Hein. Que ce soit des soi-disant experts, politologues, économistes, ou je sais pas quoi, espèce de journalistes spécialisés en je sais pas quoi. Bon, en fait, c'est ce qui est, parce qu'il y a CNews, mais il y a BFM TV, il y a tout un tas de chaînes comme ça. LCI, qui appartient à TF1.
LCI, c'est TF1, oui.
Ouais. C'est des chaînes privées, et c'est là, quand même, que passent beaucoup d'informations auprès de la population, sous couvert d'une espèce de liberté de parole, quoi.
C'est ça.
C'est ça qui est grave, quoi. Il y a une espèce de lâchage complètement dingue, en fait, dans ces émissions-là, des heures et des heures sur l'année, c'est fou, quoi. Et à côté de ça, il y a quoi ? Il n'y a rien. Il y a le service public. Mais bon, le service public, de plus en plus, il est dans des logiques de rentabilité privée aussi.
De toute façon, le service... Enfin, excuse-moi, je te coupe. Le service public, si tu veux, même, par exemple, le Premier ministre ou les gens du gouvernement actuellement, quand ils ont une annonce officielle à faire, ils ne vont même pas sur France 2, qui est le service public. Ils vont sur TF1.
Ouais, ouais.
Déjà, tu vois, c'est...
Mais je sais, mais problème, du coup, quoi. Ce que je voulais dire, le service public qui devrait contrebalancer en fait ce genre de discours et ce genre de journalisme entre guillemets, hein, parce que du coup je pense pas qu'on peut par exemple dire que Pascal Praud est un journaliste.
Non, c'est un chroniqueur sportif,
voilà, ou c'est je sais pas trop ce que c'est une espèce d'expert autoproclamé de tout et n'importe quoi, donc bon bref. Tiens. Non, mais du coup, le service public qui devrait contrebalancer par des enquêtes de fond, par des choses intéressantes pour ouvrir un petit peu la parole à d'autres, pour essayer de faire que en fait les gens qui regardent ça se construisent un esprit critique, ne fait rien. Et souvent en fait, si on écoute la radio par exemple, France Inter ou France Culture, qui sont des radios d'État. Le discours dominant, il va aussi dans le même sens, plus ou moins. Laisser la parole à beaucoup de gens qui tiennent des propos souvent dégueulasses, quoi.
Alors après, je minore tes propos sur le service public, par exemple, sur France Inter, tu vois, parce qu'ils se font avoiner systématiquement, France Inter, dès qu'ils font une émission, par justement tout le public de... Enfin, quand tu... Faut regarder un peu, tu vois, le problème, c'est que quand tu regardes le problème globalement, sur une fachosphère, on va appeler ça, qui est les tweets, les Facebook, les machins, ouais, tu vas voir des émissions de France Inter qui sont assez critiques vis-à-vis de l'État en place, ou qui sont plutôt, on va dire, dans leur nouvelle... dans leur truc islamo-gauchiste, tu vois, puisque c'est ça le nouveau mot à la mode.
Moi, je vois pas qu'ils sont très critiques sur les politiques des gouvernements, en général.
Ça dépend quelle émission tu regardes, c'est toujours pareil, quoi, tu vois, enfin, ou t'écoutes.
Pour moi, grosso modo, ils sont pas du tout critiques.
Après,
les chiens de garde.
Je ferai pas de pub pour certaines émissions, quoi.
Mais en fait, pour moi, il y a du coup, en fait, on se retrouve dans une fausse alternative. Il y a ces médias de chaîne info privés, qui sont des médias privés, qui donnent la parole à des pseudo-experts. Et qui font monter la sauce, et qui, du coup, un Zemmour, pendant des années, il a scène ouverte, et il en devient un personnage politique.
C'est ça.
Et en face à ça, on a, on va dire, le service public, qui pour moi, quand même, sont des chiens de garde. Il y a très, très peu de critiques sur France Inter ou France Culture. Les critiques, elles viennent plutôt de travaux documentaires, en fait. Mais quand on écoute les infos sur France Inter, la matinale de France Inter, Demorand et Salamé, chiens de garde.
Oui, ceux-là, oui. Bon.
Et c'est la matinale la plus écoutée de France, quoi. Mais ça vaut RMC, hein, je veux dire. Bon, j'exagère peut-être, mais des chiens de garde qui vont dans le sens du gouvernement, qui vont reprendre tous les éléments de langage, islamo-gauchisme, etc. Mm-hmm. Bon, bref. Du coup, en fait, les débats sont faussés à la base. Bon, bref.
Donc bah, c'était un peu... Moi, je vais continuer à scruter ça, parce que ça m'intéresse, la fabrication de cette marionnette politique.
Et puis marionnette politique, quand même soutenue par des gens encore plus dangereux que lui. Ouais. Je tombais sur un très bon article dans Street Press, qui intitulé « Des soutiens de Zemmour tirent sur des caricatures de juifs, de musulmans et de noirs ». Donc en fait, c'est des mecs qui se font appeler la famille Gallican. Alors, je ne sais pas si c'est leur vrai nom de famille ou quoi, mais en gros, on les voit utiliser... Alors, en armes à feu, ils utilisent des armes à poudre noire.
Ouais,
Parce qu'en fait, ce sont des armes classées
De collection.
De collection, voilà. Et donc, tu peux les obtenir sans avoir besoin d'un port d'armes ou quoi que ce soit. Et alors, donc, dans le milieu survivaliste, apparemment...
J'ai fait, tu vois, suite à cet article, j'ai fait un essai sur un site internet. J'ai tapé flingue à poudre noire.
T'as essayé d'en avoir une.
Et je pouvais la mettre dans mon panier, acheter, pas de contrôle, pas de carte.
Voilà, donc, on les voit utiliser ces armes-là. Ils tirent sur des caricatures, effectivement, donc de noirs, de juifs, de musulmans... Ils s'en vantent. Je vais pas lire tout l'article de Street Press. Il est très bien fait. On vous mettra le lien, hein, comme d'habitude, dans nos articles de Midinal. Vous pourrez, parce qu'il est assez long. Il décrypte pas mal le truc. Mais ces gens-là, par exemple, cette famille Gallican, quand même, donc soutient ouvertement Zemmour. C'est ça qui est un peu flippant. Rien dans le crâne. Oui. Je lis les titres qui tombent dans l'article de Street Press. Donc ils ont rejoint le rang de Génération Z. Génération Z, qui est le mouvement de jeunesse là qui mène la campagne pour Zemmour. Voilà, donc ils ont participé à des déjeuners de soutien dans l'Inde, fait des collages d'affiches toujours dans l'Inde. Ils ont participé au meeting nantais aussi récemment. Hein, oui. Voilà. Donc ils sont à fond, ils invitent tous leurs fans à les rejoindre, ils sont aussi dans les... C'est peut-être pour ça qu'à un moment, il va falloir qu'on y retourne aussi, faire quelque chose. Dans les manifs contre le pass sanitaire, hein, on les a vus en cortège à Châteauroux, à Rennes ou à Paris. Il y a eu un white bloc là, au mois de septembre, qui a été constitué,
un white bloc.
Dixit Street Press, donc un black bloc constitué de militants néo-nazis. Ils étaient quand même près de 200 nationalistes hein, dans ce white bloc. Donc, je trouve que ça commence à monter d'un cran. Ils se montrent de plus en plus, pas à cause de ces chaînes hein, de télé là, qui donnent la parole à des gens et plus dégueulasses les uns que les autres. Du coup, ils se croient tout permis. Quoi,
en fait, j'ai l'impression que tu as une libéralisation en fait, de la parole de ces gens-là qui fulminent depuis 10 ans. En fait, la cocotte minute est en train d'exploser finalement.
Ah ouais, et puis c'est...
et tu les vois monter en puissance. Et c'est des... Enfin, moi je fais le parallèle avec en ce moment, on balance en pâture aussi, soi-disant, des gens d'extrême gauche, ultra violents, les antifascistes, les machins. Mais enfin, comme tu le disais, ces gens-là, ils n'hésitent pas à s'armer, quoi.
Ouais, et puis ils sont protégés en plus. Parce que quand tu vois un peu ce qui se passe à Lyon,
à Nantes.
Tu as des descentes de fachos qui s'attaquent à une radio copine, à Radio Canul, qui s'attaquent à une librairie de gauche. Et eux qui ne sont pas du tout mis en examen, il y a des films, rien de pas de problème, quoi. Par contre. On va aller arrêter des militants Antifa, qu'on va leur reprocher d'avoir dégagé des gens de l'extrême droite d'une manif, quoi, mais sans violence. Hein. C'est-à-dire que les flics ont été mettre la pression au côté facho, là, au nazillon, pour leur porter plainte pour qu'on puisse faire quelque chose. Ils ne l'ont pas fait, donc il n'y a pas de plainte. Ils sont renseignés auprès des hôpitaux pour savoir s'il y en a qui avaient eu des ITT. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Mais ils trouvent quand même le moyen d'aller foutre des militants gauchias, antifa, en garde à vue. Il n'y a rien dans les dossiers. Par contre, les autres, ils courent les rues et c'est de pire en pire. D'ailleurs, ce matin, en venant, il va falloir que je m'arrête au retour, je suis retombé sur encore deux affiches là, de Zemmour présidence.
On a vu 4-5 sur la route,
ouais. Ah ouais, ça a fleuri cette nuit là encore. Hein.
Ouais, puis,
il y a une grosse campagne d'affichage cette nuit.
Après, de toute manière, alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça à l'antenne, mais de toute manière, les flics les protégeront, puisqu'ils, sans se l'avouer, ils sont de la même idée. Donc, au fond d'eux, c'est ce qu'ils pensent et ils sont élevés là-dedans. Donc,
Il va vraiment être temps de se réveiller, je pense. Hein, parce que...
De s'organiser en armée révolutionnaire.
Écoute, en face, ils ont l'air prêts. Hein, ils se préparent. Hein,
en face, je pense qu'eux, ils sont prêts à prendre des flingues et à descendre. Ils sont assez extrémistes. Comme,
ouais. À un moment, il va falloir qu'on prenne conscience d'arrêter de... Il faut vraiment qu'on... Ça va être des idées à combattre, là, encore, jusqu'au... Enfin, pas que jusqu'au présidentiel, c'est parti, quoi.
Tout en sachant qu'aussi bien, là, il est en train de faire monter la mayonnaise et il ne va pas se présenter, tu vois. Par contre, il vend du bouquin, quoi.
Ouais, je ne suis pas sûr qu'il ne se présente pas, hein. Ça commence à être... Voilà, très bel article, décryptage sur cette famille Gallican et ce milieu nazillon, là, qui grossit, et qui ont des pages Telegram,
C'est assez fou, ouais.
C'est un truc de fou, quoi.
Et justement, moi, en parallèle encore de ça, tu vois, j'avais un dernier article dont je voulais causer, mais je ne vais pas trop m'éterniser dessus. J'encourage les gens à aller le lire. En fait, c'est sur France Inter. Voilà, comme quoi des fois il y a des articles sur France Inter, écrits, hein, attention.
Ouais, sans faire exprès, parfois il y a des
voilà. Trucs, hein. C'était justement pour mettre le parallèle au temps de parole, où le mec il te claque quand même 10 heures minimum de temps de parole par mois, et justement dans cet article, grâce aux joies des internets et du fait que maintenant tout s'archive, tout reste, c'est impossible d'effacer ses traces, il y a toujours une sauvegarde quelque part. Et ben voilà, l'article de France Inter, en gros le titre c'est article, livre, discours, nous avons exhumé 25 ans de sorties sexistes d'Éric Zemmour.
Et ah, putain.
Quand tu lis l'article...
Ils en ont fait un livre.
C'est un article, si tu veux, mais c'est... je sais même pas par où commencer, parce qu'en fait, c'est un truc de ouf, en fait. Il est assez... Zemmour, il se revendique du... En gros, c'est une idée de pensée, un peu, qui vient du... Début du XXe siècle, là, fin du XIXe, où la pensée machiste était assez importante et assez dégueulasse, d'ailleurs. Hein, je connaissais pas trop cette histoire, j'ai commencé à me renseigner justement vis-à-vis de cet article. Et je sais même pas quoi lire tellement c'est dégueulasse. Je pense qu'il vaut mieux aller le lire. Voilà, c'est... J'essaye de trouver un truc.
Oui, en tout cas, c'est dingue de s'apercevoir que dans les soutiens de Zemmour, t'as des femmes, quoi. Il y a un truc que je pense que... Enfin, déjà, c'est compliqué de comprendre comment on peut soutenir des idées pareilles. Enfin, pour moi, ça l'est, quoi, mais...
Je vais juste vous lire un article pour vous ayez sa pensée, en fait, parce que c'est quand même un mec qui se réclame du pétinisme et tout. Enfin, il est costaud, quoi, tu vois. Et dans un bouquin qu'il a écrit donc en 2006, qui s'appelle « Le premier sexe », déjà, ça donne envie de le lire... En gros, voilà, c'est les théories de Zemmour. Hein. C'est « Les femmes font la fiesta pendant la guerre ». Donc je lis juste le petit extrait. « Pour Éric Zemmour, le point de bascule de la société française a eu lieu lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les hommes ont été dévirilisés. C'est tout l'objet de son premier livre. Le premier sexe, paru en 2006. Durant ces périodes, les hommes sont fragilisés par la guerre, la vie dans les tranchées, mais aussi par l'attitude des femmes. » Et alors là, c'est un extrait, hein, c'est ce qui est écrit dans son bouquin. « La virilité n'est plus héroïsée, mais elle est oubliée, meurtrie, avalie par les ordres imbéciles de l'état-major, par la boue des tranchées, comme par la fiesta à l'arrière. » Donc voilà.
Ah, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que derrière un Zemmour, en fait, là, c'est que, en fait, il y a un système complet, en fait. Le type, c'est un raciste, c'est un protecteur du patriarcat.
C'est ça.
Et il arrive à victimiser les hommes, disons, là-dessus. En plus.
Il te fait une relecture de l'histoire dans son sens. C'est, en fait, ça fait système, quoi. Système qu'on pourrait qualifier d'autoritaire, pré-fasciste, pétainiste, je sais pas trop quoi.
C'est ça.
Mais bref, c'est incroyable. Quoi, je tombe pas des nues, hein, mais c'est un vieux courant réactionnaire dans la droite française et qui est très très fort en ce moment.
C'est ça, c'est le retour du patriarcat archaïque. Les femmes sont là
qui est instrumentalisé après, hein, par les gouvernements successifs, quoi. On sait par exemple que le PS et Mitterrand en particulier a instrumentalisé le FN et a joué là-dessus pour diviser la droite et pour continuer à gagner les élections. Donc derrière, en fait, y a une espèce de jeu de dupes entre les gouvernements qui vont se dire progressistes, parce que par exemple Macron va se dire progressiste. Il va avoir un discours très 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 lissé sur les questions d'immigration, etc. Après, qu'on va dans les faits, qu'on va voir dans la réalité, je veux dire, il y a les CRA, il y a une politique dégueulasse aux frontières, et ça, c'est pas Le Pen ou c'est pas Zemmour, c'est Macron.
Ah bah oui, mais on peut en parler des heures, mais c'est comme l'autre fois, je voyais un jeune macroniste défendre le bilan sur l'immigration de Macron, qui se vantait que depuis quelques années, ils avaient fait plus d'expulsions, ils avaient donné plus de QTF, donc des obligations de quitter le territoire français et tout ça. Ils disaient, mais nous, on a fait plus encore, on a fait plus.
On était meilleur que Valls.
C'est un truc de fou, quoi. Donc forcément, oui, avec déjà un Macron au pouvoir qui va dans ce sens-là et qui veut essayer de gratter sur le terrain de l'extrême droite, quoi, c'est... Ça ouvre la porte à l'extrême. C'est tapis rouge, quoi, pour eux, quoi.
Bah, ça libéralise surtout la pensée, en fait. Les gens, pour eux, c'est de la normalisation d'un discours de haine. En fait.
Ça crétinise la pensée.
Mais bon. Moi, je mettrai le lien de cet article de France Inter. Voilà, c'est... Il est bien sourcé, c'est assez intéressant à lire. Ses sorties sont quand même... Enfin, il faut le lire parce que c'est hallucinant, en fait. D'entendre ça en 2021, je trouve ça hallucinant. Mais bon, après, bref.
Ouais.
On va arrêter de parler de Zemmour, je crois.
Ouais, on va arrêter. On va parler d'autres luttes, vite fait, avant de faire une coupure, peut-être, je ne sais pas où on en est. Je vous avais parlé déjà des méga-bassines, des projets des méga-bassines, c'est le gros projet où de faire des grandes rétentions d'eau, enfin de faire des trucs de 8 hectares en moyenne, où on creuse le sol, on y met des bâches plastiques pour remplir de flotte, dans le but d'alimenter les agriculteurs qui manqueraient d'eau l'été. Donc ces méga bassines qui sont normalement remplies, enfin c'est pas normalement, qui seraient remplies l'hiver en tapant dans les ressources, dans les rivières, dans les fleuves, dans les comment on appelle ça,
les nappes phréatiques
quoi. Donc au passage, bah tu fais baisser les nappes phréatiques l'hiver aussi. Donc quelque part l'été, qui sait qu'on aura plus de flotte après, c'est les habitants quoi. Je sais pas. Enfin c'est la guerre.
C'est dans des régions qui sont déjà en stress hydrique assez important.
Ouais, ou dans le marais Poitevin aussi, ils vont peut-être réussir à assécher le marais Poitevin dans ces conneries. Donc là il y avait samedi, là il y avait une grande opposition, une grande manifestation. C'était dans les Deux-Sèvres à Mauzé-sur-le-Mignon. Il y a eu entre 1500, 2000 voire 3000 suivant les organisateurs, personnes qui se sont mobilisées. Ça a commencé dans le calme. Bon, après, il y a eu apparemment quelques affrontements avec les forces de l'ordre, évidemment, hein, parce qu'eux avaient voulu mettre des barrages. Ils ont commencé à gazer, évidemment, donc ça a répondu par des jets de pierre. Donc, des affrontements classiques, hein, on va dire. Voilà. Mais il y avait du monde. Mais il n'y avait pas que ces 2000 personnes, en fait, qui venaient s'opposer aux méga-bassines. La FNSEA avait appelé et a quand même réussi à envoyer 400 agriculteurs, donc là des pros méga-bassines, donc on voit bien à qui va profiter ces méga-bassines, c'est pas pour les petits agriculteurs qui manqueront d'eau. Hein.
Parce que la Confédération Paysanne, si mes souvenirs sont bons,
ils sont dans l'autre sens. Oui, voilà.
Ils sont contre le projet.
Ils sont contre le projet. De l'autre côté, en fait, ça avait été appelé, je lis l'article vite fait, c'est sur un truc de 20 minutes, ça devrait être assez vite retrouvé. Donc, tu as la Confédération Paysanne qui avait appelé les soulèvements de la terre et voilà, en gros, plus les collectifs qui sont constitués contre ces projets de méga-bassines. Et en face, c'est ça, la FNSEA qui avait appelé à 400 agriculteurs. Et donc, FNSEA et les jeunes agriculteurs, hein, ceux-là, ils sont pas mal aussi. Voilà. Donc, ça, c'était un peu chaud, un peu tendu. Ouais. Mais la préfecture... déplore aussi qu'il y en a une autre donc dans le département voisin en Charente-Maritime qui aurait été mise hors service où il y a la pompe qui a été déconnectée, la pompe qui remplissait ces méga-bassines et les bâches qui recouvraient la cuvette retirées ou déchirées, donc du coup l'eau se barre quoi, et va retrouver sa place naturelle.
Et en plus, ce qui est délirant avec ces méga-bassines, c'est qu'en plus ça va, en plus de pomper la flotte, l'été, quand il va faire super chaud et tout ça, ça va s'évaporer, parce que comme c'est même pas fait intelligemment, limite, si encore ils enterraient des bassines, tu vois, pour éviter que la flotte s'évapore et tout, mais l'été, tu vois, ils vont pomper, ça va s'évaporer, donc tu vas avoir de la perte. En plus, ils pompent dans les nappes, enfin, de toute manière, quand tu lis les rapports de l'eau en France, qui sont assez alarmants, hein, parce qu'en gros, en France, faut savoir que c'est le consommateur public, c'est-à-dire toi pour boire, qui paye, quasiment 80% de la facture de la flotte, si tu mets ça vis-à-vis des industriels ou des paysans, en rapport pollueur-payeur et tout ça. Donc c'est assez fou. Et en plus tout ça pour faire pousser du maïs, qui est pas une plante adaptée à un climat comme le nôtre et qui réclame de la flotte comme pas permis. Quoi.
Donc voilà, donc en gros, il y a des gens mobilisés. Hein, j'ai été étonné, moi, quand j'ai appris ces projets de méga-bassines, je n'avais pas entendu parler. Et puis je m'aperçois, j'ai dit, la vache, il y a déjà du monde qui est sur l'affaire. Quoi. C'est bien, c'est un peu rassurant.
Ça se rapproche un peu de ce qu'il y a eu à Sivens.
Ouais, mais puis on a affaire à des gens qui n'hésitent pas, quoi, ça y va. Quoi. Bon, c'est un peu comme les faucheurs volontaires, je pense que là, si apparemment t'as la Confédération Paysanne là-dedans, ça va.
Bah ouais, puis là t'es clairement sûr, en fait, c'est les gens qui s'opposent là, c'est la vieille école de l'agriculture avec la FNSEA qui est au tout chimique, le rendement, faut du rendement, faut voilà. Enfin, si encore ton maïs, il nourrissait des hommes, mais là, le pire, c'est pas ça, c'est qu'en plus, c'est pour nourrir du bétail, et ainsi de suite. T'es dans un cycle productiviste.
Ouais, puis c'est dingue le nombre qu'ils doivent en faire. Tu vois, rien que dans ce département-là, autour de Mosée-sur-le-Mignon, il y en a 16 prévues des bassines comme ça. Sur tout le bassin de la Sèvre-Niortaise, 16 méga-bassines. Je sens que j'avais entendu que c'était au moins 80-90 qu'ils voulaient faire dans toute la France. Voilà, enfin, non, méga bassine, ça sert à rien, ça, et puis c'est une guerre de l'eau qui se prépare, quoi, si on part là-dessus, quoi, c'est, puis l'eau n'appartient pas à la FNSEA, quoi, faut arrêter, quoi. Ben voilà.
Ouais, ouais.
Donc je pense qu'on en verra d'autres, hein, si vous suivez l'actualité, alors pas CNews évidemment, ça, ils vous en parlent pas de ça, des méga-bassines, mais en se baladant sur Internet, on arrive à trouver des infos et suivre ce combat-là.
Par contre, CNews nous bassine.
Oh, Didier approche. Bon, est-ce qu'on ferait pas une petite pause? Parce que je sens qu'on va devoir aussi accueillir une personne qui va venir discuter tout à l'heure.
C'est ça.
Dans la partie s'informer autrement, c'est ça, hein. Ça aurait pu être dans l'agenda, mais ce sera s'informer autrement, ce sera bien.
On a deux invités aujourd'hui.
Ouais, une en direct dans le studio, et un qui sera, donc on va prendre au téléphone. Peut-être qu'on commencera par le téléphone, je vais voir suivant qui est là, parce que je crois que la personne est dispo entre 13h et 13h30 pour le téléphone.
Je te laisserai peut-être gérer la partie téléphone.
Voilà, je vais appeler la personne pendant la pause musicale que Pedro nous a préparée. Attention, Steph, prends le pouvoir là, Pedro.
Il y a prise de pouvoir.
Quand Allez. J'ai croisé ce jeune homme qui était aussi jeune que mon père, il avait plus de phéromones que des SK en plein désert. M'a proposé son numéro, il savait pas, le cochon, avec sa dégaine de vieux beau, qu'il allait finir en chanson sur son camion. Une inscription: Jean-Marc, pathétique, débouche tes canalisations, vidange ta fosse septique. S'il avait été zingueur, je me serais bien fait dézinguer. S'il avait été monteur, je me serais bien fait démonter. S'il eût été ramoneur, je me serais bien fait ramoner. Mais Jean-Marc, c'est un crooner qui débouche tes WC. J'aimerais que tu protèges ma berge, que tu me cures le siphon, que tu me carchérises, que tu m'asperges le fond des canalisations. Vidange-moi le bac à graisse, qui est plein comme un gendarme. J'ai les conduits en détresse, tire-moi la sonnette d'alarme. Caresse-moi le robinet, déverse-toi dans mon égout, inspecte-moi la cavité et remplis-moi les trous. Ah oui, dégaze-moi la cuve, pompe-moi la fosse septique, il fait tout chaud dans mon étuve, viens faire un tour sous mes tropiques. S'il était archéologue, je l'aurais laissé fouiller. S'il eût été proctologue, je me serais bien fait proctoler. Je me serais fait déculotter s'il eût été sans culotte. Mais Jean-Marc est habillé et il s'occupe de tes chiottes. Détarte-moi la colonne, désingue-moi la plomberie, oh oui. Prouve-moi que t'es un homme, inspecte-moi la tuyauterie. Assainis-moi le caillon, réhydrate mes sédiments. Ventouse-moi le bourson, canalise-moi violemment. J'ai les fluides qui se détraquent, je crois que j'ai perdu les eaux usées. J'ai comme des fuites dans le cloaque et le réservoir percé. Que je suis plus étanche, oh oui Jean-Marc, colmate-moi, il suffirait d'un petit coup de manche pour que ça reparte comme autrefois. S'il avait été chômeur, ben il aurait pas chômé. S'il avait été violeur, c'est pas un métier. S'il était aventurier, j'aurais été son Amazon. Mais voilà, ça fait rêver, Jean-Marc c'est le roi des trônes. La tête baissée, Jean-Marc, tu fonces et tu essayes et tu siphonnes. Jean-Marc, des plus jeunes jusqu'aux plus vieilles, tu cherches une femme, Jean-Marc, qui te soit fidèle. Mais t'as les mains dans toutes les flaques et c'est pas occasionnel. Et j'ai crié, Jean-Marc, avec moi t'as rien à perdre. Et j'ai hurlé, Jean-Marc, vu que t'es déjà dans la merde, l'avais pas l'oreille affûtée. Et pour un siphonneur, le comble c'est d'être bouché comme un sanibroyeur. S'il eût été boulanger, il m'aurait pétri les seins. S'il avait été pompier, il m'aurait aspergé les reins. S'il avait été curé, ben ça y aurait fait du bien. Mais Jean-Marc, il est athée et il visite les petits coins. S'il était agriculteur, je me serais bien fait labourer. S'il eût été cascadeur, je me serais bien fait culbuter. S'il eût été vendangeur, je l'aurais laissé me grappiller. Mais Jean-Marc est vidangeur et il explore tes cabinets. S'il avait été zingueur, dézingué. S'il avait été monteur,
sorcières et des infirmiers.